BFM Bourse, le club de la bourse.
Et on évoquait aussi tout à l'heure la campagne présidentielle américaine. Donald Trump a subi un gros revers à la Chambre des représentants américaine, puisque la Chambre des représentants a voté en faveur d'un important paquet d'aides supplémentaires à l'Ukraine. C'était pas la volonté de Donald Trump, là, c'est un gros revers pour lui. Mais dans les sondages, Donald Trump continue de gagner du terrain chez les jeunes, figurez-vous. C'est John Plassard qui nous en parlait tout à l'heure à 15h30 dans USA Today. Si vous avez raté ce moment de direct, vous pouvez le retrouver en replay ou en podcast sur notre application BFM Bourse. Oui, il se trouve que historiquement, les jeunes ont toujours eu tendance à privilégier le Parti démocrate, mais que cela est en train de se retourner. John Plassard, donc en replay, n'hésitez pas à consulter les replays et podcasts de BFM Bourse. Nos coéquipiers du club, pour la suite, pour mesurer ce qui nous attend sur les marchés, ils sont là. Xavier de Buren, bonsoir Xavier.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue au TA Capital. Et Valentine Hénouze, re-bonsoir Valentine.
Bonsoir.
En fil rouge avec nous cet après-midi pour Amundi Institute. Ravi de vous retrouver tous les deux. On est au début, on commence à avancer maintenant dans la saison de publication, mais là, ça s'accélère vraiment cette semaine en Europe. Comment sentez-vous ? On va parler des publications et de celles sur lesquelles, les entreprises pour lesquelles vous êtes plus optimiste et celles sur lesquelles vous êtes plus inquiet à l'orée de ces publications. Mais comment sentez-vous l'état global du marché maintenant qu'on entre dans le dur, Xavier ?
Alors effectivement, vous l'avez dit, on rentre vraiment dans le dur sur les publications parce que pour les deux prochaines semaines, on aura aussi bien aux États-Unis qu'en Europe d'ailleurs, puisque 70% des entreprises du S&P 500 vont publier dans les deux prochaines semaines. Et en Europe, sur le Stoxx 600, c'est quasiment un tiers de ces entreprises qui vont publier. Alors ces publications, elles sont importantes à plusieurs titres. Le premier, c'est qu'on va avoir un exercice, un trimestre à peu près normalisé. Notamment, bon, on l'a vu, l'inflation qui a continué de baisser, donc on vient sur des niveaux de prix pour les entreprises qui sont un peu normalisées. On va sans doute voir d'ailleurs moins de pricing power de la part des entreprises, parce que c'est vrai que ces derniers trimestres, ils ont pas mal surfé sur le pricing power, elles avaient cette capacité à pouvoir augmenter les prix trimestre après trimestre. Et évidemment, la cause, c'était pour dire qu'on va compenser l'inflation. Maintenant que l'inflation s'est normalisée, on va voir ceux qui ont réellement du pricing power et ceux qui n'en ont pas ou qui en ont perdu. Ça, c'est le premier élément. Ce qui va être important également, c'est qu'on a aussi une situation qui s'est bien normalisée du côté des contraintes de supply chain, de logistique, etc. Donc, on a un exercice qui va être à peu près normalisé. On a vu aussi des conditions de financement qui sont améliorées également. Donc, on a une situation qui se normalise sur pas mal de points, donc ça va être intéressant de voir comment les entreprises s'en sortent dans cet environnement à peu près normal. Ce qui va être important de regarder aussi, c'est le discours des sociétés. Effectivement, on va avoir des publications, c'est sur un trimestre, c'est le début de l'année, oui. En fonction des, industries, il peut y avoir un peu de cyclicité tout au long de l'année, donc voilà. Mais ce qui va être important, c'est vraiment le discours des entreprises, savoir si elles vont confirmer ou même donner des objectifs pour cette année et comment est-ce qu'elles voient l'avenir. Et puis le point qui sera évidemment très important à surveiller, c'est les carnets de commandes. Parce que là aussi, on a des nouvelles prises de commandes, notamment sur la partie industrielle, parce qu'on voit d'ailleurs qu'on a touché un point bas sur l'activité manufacturière en Europe, et on voit que ça commence tout doucement à repartir, et ça, c'est un élément qu'il faudra surveiller, sur lequel on pourra avoir plus d'indications sur les commentaires de ces sociétés.
Et est-ce que vous sentez que cette saison de publication pourrait enfin permettre au marché de sortir de cette incroyable distorsion, à savoir certains secteurs très chèrement valorisés, puis tout le reste du marché, la majorité silencieuse du marché, beaucoup moins bien valorisée. Est-ce qu'on pourrait voir un rapprochement des valorisations à l'occasion, une détente de l'élastique de valorisation, en quelque sorte, à l'occasion de cette saison de publication ?
Il faut l'espérer. Il faut que le marché se reconcentre sur la croissance des bénéfices par action. Il y a une étude sur très long terme qui explique que 80% de la performance des marchés actions s'explique par d'un côté les croissances bénéficiaires, c'est-à-dire la croissance des bénéfices par action et la génération de cash, et 20% s'explique par une hausse des multiples du marché ou du secteur. Ces dernières années, on est un peu passé de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est plutôt la hausse des multiples qui a conduit la hausse forte des indices, et vous l'avez évoqué, on l'évoquera certainement sur notamment le secteur tech américain qui a vraiment poussé la performance du marché. Et là, ce serait un élément favorable que les investisseurs se reconcentrent pour une fois aux fondamentaux et sur la croissance des bénéfices par action qui sont attendus pour cette année à 10% de croissance sur les États-Unis et 4% de croissance des bénéfices par action en Europe.
Xavier, on se parle franchement. Alors, on va vous soumettre la question du jour, celle qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs sur les réseaux sociaux, notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. Vous pouvez vous tous vous y abonner. On le disait, énormément de publications là qui arrivent, 21 rien que sur le CAC 40, énormément aussi cette semaine à Wall Street. Ça fait beaucoup là, en à peine quelques jours. Et la question, et vous, arriverez-vous à tout suivre? Oui ou non? Alors, dans un instant, on vous fera part des réponses de nos auditeurs et téléspectateurs. Oui ou non, arriverez-vous à tout suivre au milieu de toutes ces publications? Mais je vous la pose cette question, Xavier. Vous êtes un professionnel de marché. Il y en a beaucoup, là, d'un coup. Bah, jeudi, notamment, il y aura énormément d'entreprises du CAC 40 qui vont annoncer leurs résultats. Le même jour, il y a quand même 365 jours dans l'année, et souvent, elles annoncent en même temps, le même jour, leurs résultats. Est-ce que c'est facile à gérer quand on est un professionnel, qu'on doit tout éplucher comme ça au service de ses clients?
Non, bien sûr que non, c'est pas facile. Il faut se concentrer déjà. La première choix à faire, c'est de se concentrer sur les valeurs qu'on détient dans les portefeuilles ou dans nos fonds, hein, pour évidemment pour le suivi. Et puis, si on a des choses qui sont qui sortent un petit peu du lot sur des entreprises qui auraient avec des publications qui peuvent être attendues et analyser tout ça, on va se laisser le temps de regarder ça en détail. Il y a les bureaux de recherche et les analystes qui peuvent nous aider aussi là-dessus, mais effectivement.
Vous espérez que l'IA un jour vous aidera, voilà, quand il y a comme ça sur une seule journée des dizaines de publications, est-ce que l'IA un jour viendra secourir les stock pickers pour parvenir à tout suivre quand même ça?
Alors peut-être, ouais. Et puis on a des outils qui nous aident, hein. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de providers de données qui peuvent nous faciliter un petit peu le travail, mais le problème c'est que c'est des contraintes de l'AMF qui obligent les entreprises à publier dans un certain délai après la clôture des comptes, etc. Donc tout le monde se retrouve là, ils veulent pas publier le vendredi soir parce que tout le monde est en week-end. Effectivement, le mercredi, jeudi, c'est les jours qui sont très recherchés. Ouais.
68% d'entre vous avaient voté. Non, je n'arriverai pas à tout suivre cette semaine. Il y a trop de publications, 68%. 32% quand même pensent arriver à tout suivre. Pas mal, nos auditeurs étaient.
Ils sont peut-être investis sur deux ou trois titres.
Oui, qui sait. Valentine.
Après, ça dépend ce qu'on appelle tout suivre, en fait.
Ah oui, tout.
Et ça dépend comment on suit une donnée. Ou est-ce qu'on suit les choses de façon agrégée? Ou est-ce qu'on se contente de regarder quelques ratios? Ou une analyse. Rien qu'en écoutant j'étais analyste avant, donc rien que quand on écoutait la publication, l'AG, etc., ça prend déjà un certain temps.
On a une auditrice, elle est très sympa, elle nous a laissé un commentaire en lui disant oui, moi je fais partie de ceux qui pensent arriver à tout suivre grâce à vous, parce que je vous suis en replay, en podcast, gentil. Et grâce à tout l'univers de vos intervenants qui ont chacun leur vision, leur regard, parviennent à finalement apporter des points de vue complémentaires. On parvient à avoir une vision panoramique du marché. C'est Sarah qui nous a laissé ce gentil message, on la salue. Merci à elle. Et n'hésitez pas, comme elle, à nous être fidèles aussi en replay et en podcast. Vous regardez tout ça de loin, ça vous fait presque sourire tout ça.
Non.
Difficulté dans laquelle vont être les gérants et les analystes cette semaine avec ces très nombreuses publications. Vous n'êtes pas gérante. Vous regardez tout ça très loin, vous regardez plutôt le marché de taux. Et vous vous dites donc que ce marché, il va beaucoup réagir aux publications. Là, ce sont les entreprises qui vont faire la pluie et le beau temps sur le marché, où ça restera malgré tout, envers et contre tout, la politique monétaire et l'évolution des taux obligataires. Ça restera le marché obligataire, le pilote des marchés actions dans les prochains jours, même si les entreprises vont publier, Valentine.
Alors, en toile de fond, je reste persuadée qu'on a l'environnement de croissance et de politique monétaire. Et qu'aujourd'hui, on reste dans un environnement qui est favorable aux actifs risqués, parce qu'on continue d'avoir des surprises positives sur la croissance. Aux États-Unis, évidemment, parce qu'on révise à la hausse de façon formidable la croissance depuis le début de l'année, mais également en Europe, hein, la croissance économique surprend positivement. Et l'environnement de politique.
Ouais, surprend.
Les données économiques sont supérieures aux attentes. Surprend. Mais on ne révise absolument pas la croissance comme aux États-Unis. Mais non, mais on aurait pu décevoir.
Oui, on aurait pu décevoir.
Et si on regarde la consommation, la service, ça tient. Voilà.
On est d'accord.
Ça tient.
Oui.
Après, on a, pour moi, c'est le premier paramètre. Et le deuxième paramètre, c'est qu'on a une inflation, surtout aux États-Unis, qui est beaucoup plus collante que ce à quoi on s'attendait. Mais on est toujours, comme on disait juste avant, on reste toujours dans une dynamique où on anticipe que la Fed va baisser ses taux cette année. Et ça reste, ce démarrage du cycle de baisse de taux reste pour moi un soutien important aux actifs.
Les anticipations de marché sont en train de tourner là, comme une girouette.
On est sur 1-2, donc on est toujours. Oui. Et puis on n'est pas sur un scénario, on est sur un scénario où ils anticipent. Enfin, on est toujours dans un scénario.
Marché, il anticipe maximum 2 baisses de taux et encore d'ici la fin.
Le marché, il n'est pas sur un scénario où la Fed va monter ses taux. Le marché, où il n'est pas sur un scénario où il y a un désaccrage des anticipations d'inflation. Si on regarde le prix du pétrole, il a fortement augmenté depuis le début de l'année, mais la hausse, elle reste contenu, malgré tout ce risque géopolitique. Donc on n'a pas, pour moi encore, on n'a pas basculé dans un scénario.
Je vais vous dire, pour moi le marché, il est en train de sous-estimer la capacité de la Fed à ne pas baisser ses taux.
Ça va être un grand challenge, mais nous chez Amundi, on est toujours sur un scénario où, où la Fed va baisser ses taux, mais j'avoue que c'est quand même un risque que je suis de très très près, et notamment maintenant, si on va regarder, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est la prochaine étape, et pour moi, à surveiller sur les publications d'entreprises, qu'est-ce qui va se passer sur les marges, ça c'est très très important, est-ce que les entreprises vont réussir ou pas à tenir leurs marges, et autre chose que les analystes actions ne regardent pas forcément, mais ce qui est beaucoup plus regardé par les analystes taux, les analystes, tous les analystes crédit, c'est qu'est-ce qui va se passer du côté refinancement. Et ça, c'est un risque plutôt fin 2024, début 2025, qui pourrait monter en puissance si la Fed doit maintenir ses taux plus élevés plus longtemps. Parce que si on regarde les niveaux de cash, on est aujourd'hui revenu sur les niveaux d'avant Covid. Pas une situation dangereuse, mais néanmoins, les besoins de refinancement sont plus importants et l'impact des taux plus hauts sur les entreprises, c'est une histoire de maintenant. Ce n'était absolument pas une histoire de 2023. Donc, à surveiller les marges, certes. Ça, c'est déjà très, très surveillé par les investisseurs. Mais aussi le cash et la couverture des intérêts par
les... Attention, il y a les motos qui passent là. Attention, on entre dans la dernière ligne droite de cotation. Dans moins de 20 minutes, la clôture, on la vivra ensemble en direct. Valentine Hennouz nous accompagne, Xavier de Buren également, pour continuer de mesurer le potentiel des marchés. Mais à moins de 20 minutes, on est toujours en hausse. On tient notre hausse sur le CAC 40. Elle est légère, mais elle est là. Plus 0,2%, effectivement, 6038 points. Téléperformance est en tête du CAC, plus 3%. Repli pour Schneider Electric qui recule d'1,6%. Puis aussi Alstom. Une cession de ses activités de signalisation conventionnelle en Amérique du Nord. Ah, ça plaît au marché. Alstom, qui a déjà pris 30% depuis la mi-février, continue son petit bonhomme de rebond. Ce titre Alstom gagne encore aujourd'hui 1,5%. On y reviendra plus en détail avec Aude Kersulec tout à l'heure. Elle nous appellera depuis la Tour Euronext. Xavier de Buren et Valentine Hennouz donc sont nos experts du club. Oui. Bon. On espère que ça se passera mieux à la clôture quand même pour le CAC 40. Donc, le potentiel à venir, il va dépendre en partie effectivement des anticipations de baisse de taux. Vous êtes toujours confiante sur les baisses de taux de la Fed, une ou deux, Valentine, nous disiez-vous, pour cette année, même si le marché décale peu à peu.
On est toujours sur 2-3.
2-3. Ah, toujours 2-3. Donc une première baisse de taux dès le mois de juin pour Amundi.
Non, juillet pour Amundi.
Juillet, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'entre juin et septembre, il y a mois de juillet. Votre anticipation sur, Xavier, effectivement, le calendrier de la Réserve fédérale américaine, après les chiffres incroyables de l'activité aux États-Unis, on aura le chiffre de la croissance aussi du premier trimestre, ce sera jeudi. Aux États-Unis, il sera annoncé. Votre anticipation, c'est plutôt juin, plutôt septembre ou entre les deux pour la première baisse de taux?
C'est difficile, il y a beaucoup de paramètres. Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera plus modeste et plus tard. Et vous l'avez dit, on commence à voir sur les anticipations 15% des gens qui se disent qu'il pourrait y avoir un statu quo de la Fed sur ses taux cette année et que ça reportera le cycle de baisse des taux à partir de 2025. Un point important, c'est qu'il est important de constater qu'on commence la corrélation négative entre le marché des taux et les marchés des actions est en train de diminuer de plus en plus.
On a une recorrélation des deux.
Exactement. Donc ça aussi, c'est un point. Et tout l'enjeu, et je pense d'ailleurs les sociétés que vous avez nommées, Alstom, etc., qui ont quand même des sociétés qui ont beaucoup souffert ces derniers mois, on voit un regain d'intérêt de la part des investisseurs. Ça veut dire quoi aussi? Ça rejoint aussi ce qu'on disait en début par rapport aux valeurs très très chères, certes qui délivrent de la croissance, mais pas forcément des marges, etc. C'est que on sent que les investisseurs sont en train de revenir sur les fondamentaux, d'aller voir des sociétés finalement dont la valorisation est plus justifiable sur ces niveaux-là parce que vraiment trop dépréciée par rapport à la qualité des actifs, qu'on a des entreprises finalement qui trimestre après trimestre arrivent à délivrer de la croissance, à maintenir les marges, voire à les augmenter, à gagner des parts de marché. Et ça aujourd'hui dans la cote, c'est vrai que le marché a été un peu aveuglé par le succès incroyable des valeurs tech américaines. Et c'est l'occasion, dans un, encore une fois, moi je suis toujours très attaché à la normalisation de l'environnement, et là on a, ça se normalise, je l'ai dit, sur l'inflation, ça se normalise à peu près sur les taux, et donc voilà, ça va être important maintenant d'aller faire son marché sur des entreprises de très bonne qualité qui ont cette capacité sur leur marge à générer de la trésorerie.
Et est-ce qu'on peut illustrer justement, je sais pas, des idées d'entreprise dont vous vous dites celle-ci, elle est largement sous-valorisée et l'avenir lui sourit. À un moment, le marché va accepter la réalité. La réalité, à la fin, gagne toujours et le marché finira par la pricer.
Alors, sans citer de valeur, on peut citer deux exemples. C'est un, la dynamique de croissance des bénéfices par action en Europe par rapport aux États-Unis, elle est supérieure depuis 2021. C'est-à-dire que la croissance des bénéfices par action des entreprises européennes est supérieure à la croissance des entreprises américaines depuis 2021. Et on a une décote historique en termes de valorisation entre les marchés américains et les marchés européens. C'est-à-dire qu'en termes de PE, on est quasiment 35% de décote du marché européen par rapport au marché américain. Ça, c'est un premier exemple. Donc ça veut dire que peut-être plutôt aller en étant un peu contrariant, même si on voit que les marchés européens surperforment depuis le début de l'année. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est de se dire aussi du côté des petites et moyennes capitalisations, on en parle tout le temps, mais là aussi, on a atteint des niveaux de décote qui sont historiques et qui ne sont pas justifiables quand on regarde la qualité des petites et moyennes capitalisations en termes de positionnement, de croissance des marges, de croissance du chiffre d'affaires et de génération de cash.
Alors tout le monde nous dit les petites et moyennes valeurs, en plus elles ont une autre opportunité à saisir, à savoir les baisses de taux de la BCE, qui elles seront peut-être un peu plus nombreuses que les baisses de taux de la Fed cette année. Si les small et mines ne profitent pas des baisses de taux de la BCE, là ce sera peut-être le signal que c'est ancré, enfin leur sous-performance est amenée à durer. Si même quand les taux baissent, elles ne rattrapent pas une partie de leur retard, est-ce que là, pour le coup, vous vous direz, bah, fiche, c'est foutu, quoi. Enfin, voilà, si même avec le vent dans les voiles, le bateau n'avance pas, c'est qu'il y a un problème structurel, quoi.
Il serait, à mon avis, plus intéressant de voir si sur ce segment-là de marché, surperforme avec des taux qui stagnent, plus qu'une baisse. Ça veut dire que si ça stagne, ça veut dire que déjà, l'effet d'identification d'un segment de marché sur lequel on peut gagner de la valeur sera là. Et donc, ça veut dire que si les taux baissent, ce sera un effet accélérateur.
Ouais. Et on peut effectivement miser sur plus de baisses de taux en Europe qu'aux États-Unis en l'occurrence. Là, pour le coup, celle de juin, la première baisse de taux en juin en Europe, elle est ancrée chez vous, chez Amundi. Alors, pour la Fed, plutôt juillet, nous disiez-vous. Pour la BCE, ce serait dès le mois de juin. Valentine ?
Plutôt juillet, avec un niveau d'incertitude élevé. D'accord. Et très confiante sur la volonté de la BCE à baisser ses taux dès le mois de juin. On est sur des dynamiques qui sont très très différentes, US et zone euro. La trajectoire de l'inflation, de la baisse de l'inflation, on est beaucoup plus confiant de la trajectoire à la baisse de l'inflation sur la zone euro.
Malgré la petite réaccélération de la croissance.
Oui, elle est très faible, je suis d'accord. Non, et puis il faut voir aussi que l'impact des taux sur l'activité de crédit en zone euro est beaucoup plus forte qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est aussi un phénomène important.
Alors, il y a deux grands pays dont les taux souverains se retendent aujourd'hui. Il y a les États-Unis, toujours avec sa dynamique économique incroyable. On est à 4,63 là sur le 10 ans américain. Puis il y a la France, figurez-vous. Le 10 ans français est à 3%. Il renoue avec les 3% aujourd'hui, à quelques jours de la décision des agences de notation. Fitch et Moody's, vendredi, pourraient dégrader la note française ou la perspective de la note française. Votre pronostic là-dessus, Valentine, elles vont dégrader ou pas?
Alors, la note, non. Le risque sur la note, c'est plutôt un risque avec S&P, qui est déjà avec un outlook négatif. Et pour Moody's, c'est plutôt un risque sur la perspective. Voilà, première étape.
Et S&P, on a le temps de voir venir, ce sera le 31 mai.
Fin mai. S&P, d'accord. C'est fin mai.
Donc c'est sur S&P qu'il y a le plus de risques. Ce sera fin mai. Pour les décisions à venir vendredi, ce sera plutôt la perspective de la note qu'il faudra surveiller.
La perspective. Et ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que, comme ça a déjà été bien évoqué, c'est que le gouvernement, certes, est confiant dans sa volonté de ramener le déficit sur les 3% d'ici 2027. Mais dans le scénario pour ramener ce déficit, il y a des perspectives de croissance du scénario qui sont quand même très, très positives. La croissance oscille entre un 4 et un 8 sur cette période. Et dans cette période, il faudrait avoir une discipline budgétaire très forte alors qu'on a une croissance faible. Donc le gouvernement va vraiment devoir se montrer très, très convaincant dans cette capacité à ramener ce déficit sur les 3%. Et la France, sortie de Covid, fait quand même partie des mauvais élèves de l'Europe, a du mal à ramener ses dépenses au niveau qu'on avait avant le Covid. Et si on regarde en termes de hausse de dette sur PIB, on fait partie quand même vraiment des mauvais élèves.
Bon, alors on verra si la perspective de la note française est dégradée ou pas. Décision vendredi, donc. Est-ce que pour les marchés, ça aura la moindre importance ?
L'impact ?
Jusqu'ici, enfin ces dernières années, en gros depuis la crise des dettes souveraines, les notes des agences de notation, les marchés choisissent de les ignorer totalement. Et c'est pas parce qu'un pays voit sa note dégradée que les investisseurs viennent moins nombreux acheter sa dette. Et là, on voit depuis le début de l'année qu'ils sont très nombreux à acheter la dette française.
Exactement, exactement. Je pense que l'impact, même avec une dégradation de la note pour S&P, sur les marchés restera modéré. La dette française est un... un support d'investissement très très privilégié par les investisseurs étrangers, parce que c'est un marché qui est extrêmement liquide et profond. Et surtout, on est toujours, comme on le répète tout le temps, dans cette dynamique où on anticipe que la BCE va baisser ses taux et les investisseurs veulent capturer ce rendement avant les baisses de taux de la Banque centrale. Oui. Donc on a toujours des flux positifs très très forts sur les produits de dette, que ce soit les produits de dette d'entreprise ou dette des États souverains. Donc un marché qui est par nature très attractif pour les investisseurs, et on est dans un contexte où on anticipe les taux, les baisses de taux de la BCE qui rend cette dette attractive.
Et quand vous dites la France est par nature attractive pour les investisseurs, ça vient d'où ce par nature? Enfin, pourquoi la France a cette profondeur? Pourquoi par nature la France est attractive et rassure?
C'est un marché qui est très liquide. Et puis on a la chance de faire partie de la zone euro, et on bénéficie aussi des fondamentaux forts de l'Allemagne, hein, faut pas.
Oui. Mais quelque part, on peut regretter, si les agences de notation, par exemple, ne dégradent pas la France, on pourrait le regretter en disant, c'est dommage, parce qu'au moins une dégradation permettrait de réveiller l'esprit de responsabilité de nos dirigeants, en disant, voilà, symboliquement, c'est quand même pas terrible de voir la note dégradée, ça les obligerait, pour le coup, à aller plus loin, justement, dans des politiques
plus orthodoxes. Un peu plus de discipline. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir un peu plus de discipline budgétaire au niveau de la France. Alors, c'est absolument pas...
Mais est-ce qu'on y arrivera si la note n'est pas dégradée? Est-ce qu'il faudrait passer par la case dégradation?
C'est pas forcément évident, hein, parce qu'on voit le stress au niveau de l'Europe n'est pas fort. Et surtout qu'avoir un niveau de dette élevé, bon, c'est absolument pas un stress à court terme, mais à moyen terme, ça veut dire quoi? Moins de capacité à investir, et ça veut dire moins de capacité aussi à réagir à des chocs extérieurs. Donc c'est vraiment important d'avoir au cours des trois prochaines années une inflexion dans nos dépenses.
Bon, il y a déjà des efforts qui sont annoncés, 10 milliards. Exactement. Et 10 milliards, voilà, mais peut-être faudra-t-il aller plus loin. Aude nous appelle, Aude Kersulec depuis la Tour Ronex, on est à 7 minutes de la clôture. Rebonsoir Aude, comment ça se présente ce soir sur le CAC 40?
Mais bien nos gains s'amenuisent quand même au fur et à mesure qu'on se rapproche de la clôture. Plus 0,17%. On était tout juste au-dessous des 8050 points. On est à 8035 pour le moment. Et vivement demain et après-demain qu'on ait vraiment des publications au sein de notre CAC 40 pour rythmer un peu tout ça. Et justement, qu'est-ce qu'on a à l'agenda demain? On aura quand même de gros morceaux, hein, puisqu'on commencera avec le chiffre d'affaires de Renault, mais aussi après clôture, le très attendu Kering. Il y a quelques semaines, Kering qui avait dit que les ventes pour le premier trimestre pourraient baisser de 10% et même de 20% pour Gucci, hein, la moitié de ses ventes. Après cet avertissement sur chiffre d'affaires, on verra comment ça se déroule du coup pour Kering. Et puis du côté des États-Unis, il y aura aussi les très très gros morceaux, puisqu'on aura General Motors, Spotify ou encore bien sûr Tesla.
Quelle grosse semaine qui nous attend effectivement. Vous tous qui nous suivez, vous avez peut-être d'ailleurs des questions sur vos portefeuilles, comment les ajuster en fonction des publications. Vos questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, on y répond. Dans Culture Bourse, chaque jour, 15h50, Julie Cohen-Horton et ses experts vous répondent. Vous pouvez nous adresser vos questions en flashant, en scannant le QR code qui apparaît sur vos écrans régulièrement, hein, puis aussi à l'adresse BFM Bourse @bfmbusiness.fr.